Orient Hebdo, Éric Bataillon.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous braquons le projecteur sur le parcours de la fondatrice de l'entreprise tunisienne Algaplast, End Awini. Sa technologie, issue de sa propre recherche en laboratoire, offre une alternative écologique aux emballages plastiques traditionnels, tout en soutenant l'autonomisation économique des femmes en utilisant des algues rouges cultivées par une communauté de femmes pêcheurs dans la baie de Tunis. Dans un second sujet, nous évoquerons la question de l'autosuffisance alimentaire au Qatar avec une autre femme, Delphine Aklok, experte technique internationale, en mission actuellement à Doha auprès du département de sécurité alimentaire du ministère des municipalités depuis mars de l'an dernier. Deux entretiens à retrouver en podcast sur notre application Pure Radio, rubrique Société, application à laquelle vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Bonjour End Awini.
Bonjour Éric Bataillon.
Vous avez fondé Algaplast, un projet entrepreneurial l'an dernier. De quoi s'agit-il ?
Alors Algaplast, c'est un projet de start-up en économie bleue. C'est un projet qui fait en fait la valorisation des algues rouges. Les algues rouges sont cultivées sur Tunis, dans la banlieue sud de Tunis, par des femmes de pêcheurs. Et ces algues sont valorisées en des granules de bioplastique biodégradables.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette technologie ? Est-ce la recherche en laboratoire dans le cadre de votre thèse de biologie marine ?
Bah oui, bien sûr, parce que je fais de la recherche marine depuis 2002. Donc, je baigne là-dedans depuis pas mal de temps. En même temps, je suis native d'une petite ville de pêcheurs de la banlieue sud de Tunis qui vit sous l'emprise de la pollution depuis plus de 30 ans. Et là, vient l'idée de faire quelque chose. Et c'était durant ma thèse. Je cherchais un petit peu quelque chose que je pouvais faire sur le plan écologique. Et les algues, ben, ça tombait bien, parce que je suis spécialiste également des algues. Et les algues peuvent être valorisées en mille et une choses, dont bien sûr la bioplastique.
Justement, où précisément récoltez-vous les algues rouges et aussi les plastiques, je crois ? Et quel impact cette solution très écolo peut-elle avoir sur l'environnement ?
Pour la récolte, on ne fait pas de la récolte, on fait de la culture. Les souches, c'est-à-dire les petites algues primaires pour faire la culture, sont récoltées dans une petite baie sur le nord de Tunis, un petit golfe. Et ensuite, c'est implanté dans le petit bassin qu'il y a entre Zara et Rhadès. Et là, on fait un petit peu notre culture qui prend bien sûr plusieurs trimestres pour avoir enfin un petit biomasse pour en faire du bioplastique biodégradable.
Alors, vous parlez de femmes pêcheurs qui vont s'occuper de ces algues rouges. De quelle manière et pourquoi vouloir cibler cette communauté en particulier ?
C'est une histoire personnelle. J'ai ciblé cette communauté parce que je viens d'une famille de pêcheurs. Ma mère en est une. Et suite à la pollution, ces pêcheurs, ces femmes de pêcheurs aussi, ont perdu leurs moyens de subsistance, leur travail. Donc, il fallait y remédier d'une part ou d'une autre. Et les choses ont fait que, suite à mes recherches, je pouvais avoir une autre vision, et celle de l'algoculteur, algocultrice. C'est un nouveau métier. Il n'y en a pas en Tunisie. Je suis la deuxième, en fait, à en faire. Ben, on introduit un petit peu ce mindset, cet esprit, ce nouveau métier. Et il y a une bonne réception par rapport aux ces femmes de pêcheurs qui trouvent une alternative par rapport à leur travail et en plus qu'ils ramènent à leur premier amour, qui est la mer, tout simplement.
Oui, ça permet de redonner un peu d'espoir à ces femmes de pêcheurs qui avaient finalement perdu leur emploi.
Exactement, redonner espoir, qu'elles puissent encore subvenir aux leurs besoins, aux besoins de leur famille et surtout être toujours connectées à la mer.
End Awini, Algaplast est sortie gagnante du programme Industrie L, lancé en 2023 par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, en partenariat avec l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. L'entreprise a été élue meilleure start-up disruptive. Pourquoi avez-vous candidaté à ce programme qui concernait, je crois, également d'autres pays du pourtour méditerranéen ? Je citerai l'Égypte, l'Algérie, la Jordanie, je crois, la Palestine, le Maroc, le Liban.
En fait, j'ai vu un petit peu la formation qu'il y avait en primordialement, l'incubation, le suivi qu'il y avait avec industriel. Et directement, j'ai vu que le monde de l'économie bleue, le monde de la mer, il n'y en a pas tellement qui travaillent là-dessus. Et je voulais lancer tout simplement l'idée, lancer un petit peu le mindset, donner un petit peu le bâton à d'autres petits, peut-être futurs entrepreneurs dans ce secteur. Et c'est ainsi que je me suis lancée avec industriel. Et j'étais sur toute la région MENA, ensuite ambassadrice avec UNIDO et les choses ont pris de l'ampleur. Mais surtout, c'est grâce à cet esprit d'empowerment du travail des femmes, surtout des femmes de pêcheurs qui s'initialisent à un nouveau travail, un nouveau métier de la mer qui n'est pas très reconnu dans la région MENA aussi. Hein.
Et quel sentiment cela vous a-t-il inspiré? De la reconnaissance, de la fierté peut-être?
En fait, pas pour moi, sincèrement. La fierté que j'ai eue, c'était, je l'ai dit, d'ailleurs, lors de la remise de prix, en fait, ce prix, c'est grâce aux femmes, à ces femmes. C'est elles à qui vient toute la redevance. Et sincèrement, c'est elles qui font tout le boulot. Hein. Sans leur culture, moi, je vois pas, en fait, un écosystème complet. La récolte, c'est pas mon truc. C'est pas, en fait, l'esprit de ce projet. Le côté conservation, il faut faire de l'aquaculture, de l'algoculture, et ce n'est pas possible sans elle.
Enda Winnie, vous réussissez dans un secteur qu'on peut qualifier de très technique. Quel est le message que vous voulez adresser aux femmes de la région?
Ben que, on peut être diplômée, on peut être aussi une femme leader, on peut être une femme qui vient de la STEM, mais on peut aussi être une femme tout simplement, avoir tout simplement un amour pour la nature, et surtout avoir de l'espoir et avoir toujours une vision. La vision, elle fait tout.
Vous participez également au Tunisian Youth League Programme. C'est donc un engagement citoyen. Vous préparez-vous à une carrière politique peut-être dans le futur?
Non, pas politique dans le vrai sens du terme, mais je porte aussi en fait un plaidoyer. Ma région est sur l'emprise de la pollution. Et je peux pas me taire, tout simplement.
À ce stade, où en êtes-vous du développement d'Algaplast?
Algaplast, elle avance, un petit pas, mais des pas très très sûrs. Là, on est sur le côté recherche-développement. Le produit POC est sorti. Donc, dernièrement, j'étais en Suède pour un petit peu envisager de faire une fête, innover un petit peu encore plus ce prototype et aller au-delà côté recherche-développement pour avoir de la matière qui peut être vendue au-delà de la Tunisie. Et prochainement aussi, il y a une très forte possibilité aussi d'internaliser Algaplast en elle-même.
Donc, vous ne resteriez pas uniquement en Tunisie, mais vous pourriez développer votre brevet finalement ailleurs dans le monde.
Exactement, c'est ce que je cherche en fait, parce que le côté recherche et développement, il n'est pas vraiment très valorisé en Tunisie. C'est vrai, je compte bien par rapport à l'algoculture restée en Tunisie, le côté communautaire m'intéresse très fortement. Mais côté recherche et développement, je compte aussi renforcer ce truc-là, le côté laboratoire, le côté technique, et que le produit soit exportable en hors de la Tunisie. C'est pas uniquement la Tunisie, n'est pas l'unique pays qui est touché par la pollution plastique.
Bien sûr. Une réussite, Algaplast, vous espérez en avoir d'autres, évidemment, je suppose, à l'avenir, dans d'autres secteurs peut-être?
Ben oui, bon, on envisage. On a une stratégie d'ici 2025 qui n'est pas mal du tout. Algaplast, tout simplement, on envisage d'en faire plus avec ces algues. Il n'y a pas que le biomatériau, il y a aussi la possibilité d'en faire un écosystème et une chaîne industrielle à zéro rejet, c'est-à-dire aussi utiliser le rejet de ces algues dans notre domaine, les valoriser dans de la cosmétique, dans le paramédical ou bien dans l'industrie alimentaire.
Merci Enda Winnie.
Merci à vous, merci Monsieur Aïs.
Fondatrice d'Algaplast, start-up tunisienne spécialisée dans l'industrie de l'emballage, très engagée dans la lutte contre la pollution plastique, mais aussi dans l'autonomisation économique des femmes.
Orient Hebdo sur RFI.
Bonjour Delphine Acloque.
Bonjour Éric Bataillon.
Delphine Aklok, vous êtes experte internationale en sécurité alimentaire, en poste à Doha au Qatar, actuellement en mission au sein du département de sécurité alimentaire du ministère des municipalités, et cela depuis mars 2023. Le Qatar s'est lancé dans une politique d'autosuffisance alimentaire. Quels sont ses produits cibles ?
Alors, parmi les produits cibles, il y a les produits qu'on appelle les produits frais, c'est-à-dire à la fois les produits laitiers, le poulet, la viande de poulet et la viande fraîche. Et enfin, les légumes, avec 5 légumes considérés comme stratégiques, tomates, concombres, courgettes, aubergines et poivrons. Donc, des produits frais, des produits qui sont considérés comme ceux sur lesquels le risque, finalement, d'approvisionnement est important, et aussi des produits qui sont relativement consommés parmi la population locale.
La ferme géante de l'entreprise publique Baladna est-elle représentative de cet objectif ?
Alors oui, la ferme géante en question, donc 24 000 vaches, Baladna, c'est-à-dire notre pays, en fait, c'est une entreprise qui a été créée un petit peu de toutes pièces, même si elle existait auparavant, mais elle a été mise en œuvre en 2017-2018, au moment où le blocus sur le Qatar a posé la question de l'approvisionnement de la population et de l'avenir de la sécurité alimentaire. Donc Baladna a été créée afin d'assurer l'autosuffisance en lait. Et donc, on est parvenu à 100% environ d'autosuffisance en 3 ou 4 ans. Alors, ça a été finalement un branle-bas de combat. Il a fallu aller chercher des vaches Holstein aux États-Unis, en Australie ou en Europe. Et puis, créer de toutes pièces une industrie laitière pour finalement s'adapter à cette rupture d'approvisionnement qui, jusqu'au 6 juin 2017, était dominée par des produits laitiers en provenance d'Arabie Saoudite.
Et quels sont les axes de développement privilégiés par ce plan qui, vous l'avez dit, a été mis en place à partir de 2018 ?
Alors, cette stratégie de sécurité alimentaire 2018-2023, en fait, elle a 4 piliers principaux. Donc, assurer une production locale, on vient d'en parler, sur un certain nombre de produits frais. Ensuite, développer les capacités de stockage. Et ça, on se rend compte comment le stockage, finalement, est une étape décisive pour absorber les chocs sur les marchés internationaux et puis pour être en mesure d'avoir une sorte de résilience en cas de difficulté d'approvisionnement. Donc, production locale, stockage, développement d'une diversification de pays qui approvisionnent le territoire qatarien, c'est-à-dire diversifier les importations, ne pas dépendre d'un ou deux pays, mais s'assurer en fait d'avoir un portfolio de pays en mesure d'exporter vers le Qatar. La leçon du blocus et la façon dont le Qatar était très fortement dépendant de l'Arabie Saoudite a beaucoup marqué les esprits. Et donc aujourd'hui, le Qatar cherche à sécuriser des relations bilatérales avec une diversité de pays producteurs de matières agricoles. Et dernier élément, le Qatar, par ailleurs, va chercher à investir à l'étranger. On sait combien les contraintes environnementales sont fortes dans la péninsule qatarienne et plus largement dans la péninsule arabique. Et donc, pour s'assurer et sécuriser son approvisionnement, le choix d'investir via le fonds souverain qatarien avec une branche dédiée qui s'appelle Hassad Food, qui est spécialisée dans les investissements directs ou indirects à l'international. Donc le Qatar, par exemple, a investi dans des exploitations d'ovins en Australie et il a par ailleurs une diversité de prises de part dans tout un ensemble d'entreprises à l'international. Donc voilà, il s'agit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, si je peux dire, et d'assurer une sécurité alimentaire en jouant sur ces 4 piliers.
Mais Delphine Aklok, la question de l'eau, qui est intrinsèque à cette région et liée également au dérèglement climatique, peut-elle être un frein à cet espoir d'autosuffisance alimentaire ?
Oui, évidemment, la question de l'eau est partout présente dans les esprits, elle est présente dans les stratégies, elle est présente aussi sur la façon dont on se projette sur une nouvelle stratégie alimentaire 2024-2030. C'est-à-dire que la stratégie 2018-2023 a été faite dans l'urgence, dans un contexte de blocus par les pays voisins, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis notamment, mais aussi Bahreïn et Égypte. Et donc, il a fallu répondre très vite. Et donc, on a multiplié les mesures tous azimuts. Aujourd'hui, aujourd'hui, il s'agit de rationaliser finalement cette stratégie de sécurité alimentaire avec en ligne de mire une attention très forte aux ressources hydriques. Alors, ces ressources hydriques, elles sont particulièrement limitées dans la péninsule qatarienne, bien plus par exemple qu'en Arabie Saoudite. Et donc aujourd'hui, la plupart des fermes en fait désalinisent l'eau pompée dans les nappes souterraines. Donc, ce qui pose des questions de coûts en termes énergétiques, ce qui pose également des questions environnementales avec le rejet de la saumure. Voilà, il y a un vrai enjeu. Et donc, comment voir l'avenir dans ces cas-là? Eh bien, le Qatar, en tout cas, tel qu'il l'envisage aujourd'hui, c'est développer les capacités de traitement des eaux usées et utiliser ces eaux usées notamment pour le fourrage. Alors pour le moment, ce n'est pas possible d'utiliser ces eaux usées traitées pour l'alimentation humaine, mais pour l'alimentation animale, il y a un objectif de 100% des fourrages produits au Qatar qui devraient être irrigués avec des eaux usées traitées à l'horizon 2030. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Autre aspect, mettre en avant les innovations en matière d'irrigation avec des formes d'agriculture en environnement contrôlé pour minimiser la quantité d'eau, finalement le nombre de gouttes d'eau pour chaque plante produite. Donc il y a deux grands éléments, le traitement des eaux usées, alors évidemment la désalinisation, mais ça ne semble pas être un projet qui pour le moment est le plus durable en raison de la consommation d'énergie. Et puis deuxième autre aspect, eh bien des innovations en matière d'irrigation et puis aussi des innovations sur les intrants et notamment les semences pour essayer d'avoir des semences les plus adaptées à l'aridité.
Justement, le Qatar peut-il jouer un rôle dans l'émergence de biotechnologies innovantes ?
Je dirais plutôt un rôle dans l'émergence de technologies innovantes en matière agricole avec une volonté de se positionner en effet sur ces tendances de l'agritech, de la foodtech, avec par exemple le fonds souverain qatarien que j'ai déjà évoqué tout à l'heure qui a investi dans des entreprises et notamment par exemple une entreprise française, InnovaFeed, qui a pour objet de fournir de l'alimentation animale à partir d'insectes. Le fonds souverain qatarien également recherche à l'international les entreprises qui ont besoin d'aide pour se lancer sur certaines innovations. Alors, il y a toute cette discussion autour des protéines alternatives. Il y a une zone franche également au Qatar qui cherche à attirer ce type d'entreprise spécialisée dans les protéines alternatives. Alors, la question, c'est que le Qatar, évidemment, n'est pas seul et sur ces nouvelles tendances. Et les pays voisins, notamment les Émirats arabes unis, ont une sorte de longueur d'avance dans ce domaine de l'agritech et de la foodtech, avec déjà un certain nombre d'entreprises qui produisent des protéines alternatives installées sur place. Ça peut être aussi une agriculture verticale très implantée déjà aux Émirats arabes unis pour minimiser, comme je l'ai dit, la consommation d'eau. Le Qatar suit cette tendance en essayant de réfléchir à comment finalement investir dans ces technologies et faire bénéficier le territoire national et la population locale de ce type d'innovation pour sécuriser l'approvisionnement et sécuriser l'alimentation sur le long terme.
Merci Delphine Aklok.
Merci beaucoup Éric Bataillon.
Vous êtes experte internationale en sécurité alimentaire et vous êtes actuellement en poste à Doha au Qatar, en mission au sein du département de sécurité alimentaire du ministère des municipalités, et cela depuis mars de l'année dernière. À lire votre article dans le dernier numéro de la revue trimestrielle Moyen-Orient consacré à l'alimentation. Orient Hebdo, merci de votre fidélité. Dans un instant, le journal.